notre chef suprême, le grand Napoléon Bonaparte, a déjà quitté l'Égypte, nous abandonnant à la merci de la puissante flotte britannique. La défaite n'est plus qu'une question de jour. Ce 15 juillet 1799, j'ai donné l'alerte. Oh, pas pour nous offrir la moindre chance de sauver notre peau, non. Non, pour éviter qu'une impressionnante table de pierre ne serve à la reconstruction d'un vieux fort arabe dont le nom de la ville deviendra immensément célèbre. Je ne suis qu'un simple lieutenant, mais cette pierre n'est pas n'importe quelle pierre. Les trois écritures différentes gravées dans celle-ci me disent que l'on tient là un vestige exceptionnel d'une époque lointaine. Un butin inestimable dont les Anglais voudront assurément s'emparer. Je l'ignorais bien évidemment, mais je venais de découvrir l'un des plus grands trésors de l'humanité. Sans moi, celui-ci aurait bêtement servi de matériau de construction. Mon nom est Pierre-François-Xavier Bouchard. Je suis le soldat qui a découvert la pierre de Rosette. Nous sommes repliés à Rosette, petite ville au bord de la Méditerranée. Là où le Nil vient terminer sa longue course de quelques 6650 km. Nous nous affairons sous une chaleur écrasante pour récupérer des pierres dans les anciens temples afin de renforcer les murs du fort Julien, là où nous sommes retranchés. La flotte britannique est de plus en plus menaçante. Elle nous assiège depuis 2 années et l'issue des combats ne fait plus aucun doute. Ces Anglais veulent, autant que nous les Français, envahir l'Égypte pour mettre la main sur ce carrefour stratégique entre l'Europe et l'Asie. Et bien plus encore. Et c'est là qu'elle est apparue. Cette imposante table de pierre de quelques 762 kilos. Elle m'a de suite intrigué. Des inscriptions y sont gravées. 3 types d'écriture. Il ne faut pas être savant pour le voir. J'apprendrai plus tard qu'il s'agit de grec ancien, d'égyptien courant, que l'on appelle démotique, et enfin d'égyptien en hiéroglyphe. Mon chef de bataillon est du même avis. Cette découverte semble effectivement exceptionnelle. Je lui fais quand même remarquer que la pierre est cassée en haut et sur les côtés. La partie la plus endommagée est celle des hiéroglyphes. Il ne reste plus que 14 lignes de texte, alors qu'au milieu, la partie démotique comporte 32 lignes et est également cassée. La partie grecque, elle par contre, comporte 54 lignes. Cela n'inquiète nullement mon chef. Pour lui, il est normal qu'une multitude d'événements ait pu endommager la précieuse relique. L'Égypte des pharaons prenant fin en 30 avant Jésus-Christ, la pierre doit être vieille d'environ 2000 ans. Mon chef ordonne de la dégager avec précaution. Notre général, Jacques Menou, l'a fait de suite envoyer à l'Institut du Caire, créé sous les ordres de Napoléon pour y faire traduire l'inscription grecque. Que dit le texte? Et va-t-il permettre de traduire les hiéroglyphes? La version trilingue permet à tout le monde de lire le texte gravé. Enfin, pas tout à fait trilingue, car il y a 2 fois de l'égyptien. Même à l'époque, tout le monde ne lisait pas les hiéroglyphes. Beaucoup ne pratiquaient que l'égyptien courant. Quant à la version grecque du texte, elle s'explique par le fait que les Grecs ont gouverné l'Égypte entre 300 avant Jésus-Christ jusqu'à quelques dizaines d'années avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain conquiert le pays pour en faire une province. La traduction du grec ne traîne pas. Il s'agit d'un décret datant de 196 avant Jésus-Christ, commémorant l'accession au trône du pharaon grec Ptolémée V, le remerciant pour les nombreux cadeaux qu'il fit au temple durant son règne. Il est question également de réduction des impôts et de libération des prisonniers. Des plaques semblables devaient être placées dans les temples de tout le pays. Le contenu du texte ne présente en réalité que peu d'intérêt. Par contre, la dernière ligne de sa version grecque indique que les 3 textes disent exactement la même chose. Et c'est en cela que cette pierre est exceptionnelle. Elle contient la clé permettant de déchiffrer les fameux caractères hiéroglyphiques. Mon intuition était la bonne. Cette pierre est unique. elle pourrait enfin nous aider à percer les secrets d'une époque où les souverains, ces fameux pharaons, étaient perçus comme des dieux par leurs sujets et régnaient sur l'une des plus grandes civilisations du monde. L'Égypte antique a toujours fasciné, par ses pyramides et leurs mystères, par ses temples immenses, par ses rites funéraires, via lesquels de véritables trésors étaient enfouis avec de prestigieux défunts. Mais aussi par cette écriture mystique qui couvre les murs des temples, des édifices, des tombes. Certaines images montrent des humains faisant des offrandes à des dieux à tête d'animaux. Ce sont les Grecs qui ont donné le nom hiéroglyphe à cette écriture. Hiéroglyphe signifiant « signe gravé sacré ». Mais que disent ces étranges inscriptions? Quels secrets peuvent-elles révéler sur cette puissante civilisation? Jusqu'à cette fin du XVIIIe siècle, les nombreuses tentatives de compréhension de ces signes particuliers ont échoué. Tous ceux qui s'y sont attelés ont perpétué la même erreur en voulant absolument y voir des signes symboliques. La solution sera tout autre. Cette table de pierre nous offre une opportunité unique. Encore faudra-t-il la saisir. Ce sera un véritable parcours du combattant. La pierre de Rosette pourrait enfin nous apporter la clé pour déchiffrer cette écriture, casser le code et nous ouvrir définitivement les portes de cette civilisation fascinante. La nouvelle de cette découverte se répand très vite en Europe, mais vous vous en doutez, rien ne va être simple. Que faire pour garder ce trésor alors que la reddition de notre armée est proche? Les Britanniques réclament la pierre. Ils pensent qu'elle pourrait leur révéler des secrets militaires. Une course contre la montre est engagée. À l'Institut du Caire, nos chercheurs travaillent nuit et jour pour déchiffrer les fameux hiéroglyphes. Ils s'arrachent les cheveux, mais le blocage est complet. S'agit-il de signes phonétiques, comme dans un alphabet, ou de pictogrammes, comme en chinois? Le casse-tête est total. Aucun moyen de savoir quelle inscription égyptienne correspond au mot grec. En août 1801, 2 ans après la découverte de la pierre de Rosette, l'Angleterre met fin au siège. Nous sommes forcés d'abandonner l'Égypte. Dans le traité qui signe leur retrait, nos officiers sont autorisés à garder leurs affaires personnelles. Mais l'Institut du Caire doit livrer toutes ses découvertes. Nos chercheurs sont furieux. Que va-t-il advenir de ces précieux trésors? Pas question de céder la pierre de Rosette que les Anglais réclament comme un trophée de guerre. Notre commandant en chef depuis le retour de Napoléon en France, le général Jacques Menoux, essaye bien de la cacher, ce qui est une véritable gageure quand on sait qu'elle fait 1,12 m de longueur sur 76 cm de largeur et 28 cm d'épaisseur pour quasi 800 kg. Il tente de lui faire quitter le pays au nez et à la barbe des Anglais. Il l'enroule dans ses vêtements et la dissimule parmi ses effets personnels. Les Britanniques sont à l'affût, et le soupçonne de les mener en bateau, lui qui précisément a planifié d'embarquer en douce pour la France avec la pierre tant convoitée. Les officiers anglais se pointent chez lui, à Alexandrie, et sous la menace d'un pistolet, Menoux cède la pierre aux Anglais. Ces derniers l'expédient sur le champ à Londres et l'exposent immédiatement au British Museum. Nos experts ont bien entendu fait des copies et une nouvelle bataille s'engage entre les deux nations ennemies. Qui va percer le secret des hiéroglyphes? Et quel sera celui dont le nom entrera définitivement dans l'histoire? disséminée dans toutes les universités d'Europe et les plus grands savants de l'époque se mettent au travail en espérant être celui dont le nom passera à la postérité. Une véritable hystérie s'empare de tous ces experts qui s'affairent ainsi sans relâche au décodage des fameux hiéroglyphes. Les fantasmes sur le contenu des messages venus du fond des temps tiennent notamment au fait que beaucoup pensent que les hiéroglyphes contiennent des secrets sur les dieux, l'univers, l'astronomie, et qu'ils renferment à coup sûr des mystères, car ils seraient bien plus qu'une simple écriture. Aux nombreuses questions qui se posent, la pierre va-t-elle apporter des réponses? Et ces dernières vont-elles changer nos idées sur la religion, la science, l'histoire? Que vont devenir les croyances fondées sur la Bible? Va-t-on découvrir des secrets majeurs quant à notre approche de la médecine? Les linguistes ne trouvent aucune solution et pourtant, elle est forcément sous leurs yeux. Mais ils ne parviennent pas à établir des liens cohérents entre les mots, les signes, les phrases. En Europe, à cette époque, sous l'influence de la religion, on pense que les hiéroglyphes détiennent des réponses au mystère de la Bible. Des chercheurs vont même effectuer des liens entre les pyramides et les greniers à blé dont Joseph parle dans la Bible, où il collecte le blé pendant les 7 bonnes années pour se préparer aux 7 années de famine qui vont suivre. Ils cherchent à percer le secret des hiéroglyphes à travers des épisodes de la Bible. Les premiers chercheurs qui tentent de déchiffrer la pierre de Rosette se rendent compte que par le passé, on considérait les hiéroglyphes comme des pictogrammes semblables au caractère des écritures orientales, chacun représentant un mot ou une idée. Une piste qui ne mène à rien. En 1802, un chercheur français et l'un de ses collègues suédois tentent une nouvelle approche en se basant sur des inscriptions que l'on trouve sur les papyrus. Ils posent l'hypothèse que le démotique, qui n'est autre que l'égyptien courant, utiliserait le système d'écriture occidentale. Ils se mettent à comparer des mots ou des groupes de mots avec la partie écrite en grec. Ils ont commencé à montrer que le texte n'était pas uniquement symbolique et que certains signes correspondaient à des lettres séparées. Malgré cette piste prometteuse, le fruit du travail de ces deux chercheurs ne donne rien de véritablement concret. 3 ans après la découverte de la pierre de Rosette, on est toujours nulle part. L'échec de ces deux chercheurs en a refroidi plus d'un, car si la gloire peut être au rendez-vous en cas de réussite, la réputation de ceux qui se lancent dans la compétition peut sérieusement pâtir si aucune avancée dans le déchiffrage n'est réalisée. Sous le sable, attendre 15 ans après la découverte de la pierre pour que les choses bougent. Dans la lutte fratricide que se livrent chercheurs français et anglais, nous allons voir que si c'est bien Thomas Young qui aura le premier mot, ce sera Jean-François Champollion, le français, qui recueillera tous les honneurs et dont le nom sera associé à jamais à la pierre de Rosette. Au cours de l'été 1814, Thomas Young, linguiste et physicien londonien de 41 ans, rapporte une copie de la pierre de Rosette dans sa maison de campagne. Il a choisi de consacrer l'entièreté de ses vacances à la recherche de cette énigme et il sera le premier à faire parler la fameuse pierre. Thomas Young est un homme à succès qui travaille dans le domaine de la lumière. Il étudie notamment la manière dont l'œil humain perçoit les couleurs. Ses théories sont à la base de l'optique moderne. Et précisément face à l'énigme qui se présente à lui, on peut dire qu'il a vu juste. Il estime que le mysticisme qui entoure l'Égypte ancienne n'a aucun sens. Il ne pense pas découvrir les secrets de l'univers. Il commence par se concentrer sur les mots d'un point de vue graphique et localise, dans la partie grecque, les mots apparaissant plus d'une fois. Il tente de les associer à des groupes de mots de la partie démotique qui apparaissent le même nombre de fois. Via ce système, il parvient à identifier 86 traductions démotiques parmi lesquelles roi, Égypte et Ptolémée. Depuis longtemps, Thomas Young est fasciné par les hiéroglyphes entourés, appelés cartouches et situés à des endroits stratégiques dans les temples et les tombes. Des égyptologues ont déjà émis l'hypothèse que ces cartouches puissent indiquer le nom d'un pharaon ou d'un membre de la famille royale. Sur cette base, Young suppose que le cartouche, situé sur la pierre de Rosette, contient le nom de Ptolémée, étant donné que la table a été gravée en son honneur. Le coup de génie de notre chercheur est le suivant. Ptolémée étant un nom grec, les Égyptiens ont dû l'écrire phonétiquement. Et comme leur écriture est composée de pictogrammes, elle ne peut représenter les noms ou les mots étrangers. Et c'est au bout de longues nuits d'insomnie que Young parvient à rapprocher les lettres grecques de Ptolémée des hiéroglyphes de l'un des cartouches. En plus de cela, il parvient à identifier de quelle manière les Égyptiens indiquaient le féminin et le pluriel dans l'écriture hiéroglyphique. Nous sommes en 1818, et la pierre commence à livrer ses secrets. Mais Thomas Young coince. Il est persuadé que ces signes phonétiques n'ont été ajoutés qu'après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Et ce, dans le but d'identifier les rois de cette nouvelle dynastie qui n'avaient pas de nom égyptien, mais bien macédonien. De l'autre côté de la Manche, un homme est tout aussi obsédé par le déchiffrage de la pierre. Un homme que Young a fortement encouragé à ses débuts et qui finira par lui voler la vedette. Thomas Young a partagé le résultat de ses recherches dans toute l'Europe. Et c'est un jeune Français, Jean-François Champollion, dont le destin semble lié à la pierre de Rosette depuis sa naissance, qui va le mieux les exploiter. Il sera ni plus ni moins que le fondateur de l'égyptologie moderne. La légende raconte comment sa mère, Alité, a reçu la visite d'un sorcier des mois avant la naissance de l'enfant. En regardant dans les yeux de cette femme malade, ce dernier lui prédit qu'elle mettrait au monde un fils qui ferait la lumière sur les siècles passés. Champollion est né en 1790 à Figeac, en France. Dès l'âge de 11 ans, il est fasciné, comme beaucoup d'autres, par les récits de l'expédition de Napoléon en Égypte. Un jour, le destin frappe à sa porte lorsqu'un de ses cousins, qui fait partie de l'expédition, lui envoie une copie de la pierre de Rosette. Désormais, son but ultime sera de déchiffrer les hiéroglyphes. Durant ses études, il choisit logiquement d'apprendre plusieurs langues, essentiellement orientales. Il a l'intuition que ce bagage est fondamental pour atteindre l'objectif qu'il s'est assigné. Il apprend ainsi le copte, une langue parlée par les chrétiens d'Égypte et écrite en caractère grec. Une langue qu'il se félicitera de connaître quelques années plus tard. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais n'allons pas trop vite. À 14 ans, Champollion travaillait déjà énormément sur les hiéroglyphes, au point de faire une dépression nerveuse et d'être forcé au repos. Pour situer le personnage, il faut savoir que pendant sa convalescence, pour tuer l'ennui qui le minait, il se mit à apprendre le chinois. Champollion a commencé par travailler sur les liens entre la langue démotique et le copte. Parallèlement, il valide le travail de Thomas Young, qui a établi une relation entre des noms grecs et les cartouches des hiéroglyphes. En approfondissant cette voie prometteuse, il constate que le nombre de noms de rois du texte grec correspond au nombre de cartouches de la partie en hiéroglyphes. Il met en lumière un cartouche d'un temple portant le nom de Cléopâtre. Et là, on est face à une avancée majeure, car Ptolémée et Cléopâtre ont des lettres communes. Le P, le L, le O, le E. Thomas Young avait donc vu juste. Les noms étrangers sont appelés phonétiquement dans les hiéroglyphes. Pour le tenace et passionné chercheur, la voie est désormais toute tracée vers la solution de l'énigme. Champollion prouve ensuite que les mots égyptiens sont également écrits phonétiquement, ce que Young avait loupé, notamment via la copie d'une inscription du grand temple de Karnak, sur laquelle le nom d'un pharaon se trouve plusieurs fois. Ce n'est autre que Ramsès, ce que Champollion démontre en mettant en parallèle les symboles hiéroglyphiques avec leur prononciation en copte. Ainsi, le disque du soleil, qui est un des trois symboles du cartouche, se prononce Ra en copte, comme dans Ramsès. La légende raconte que Champollion s'exclame « Je tiens l'affaire » avant de tomber en syncope, quand il comprit que son alphabet égyptien lui ouvrait toutes les portes et donc une voie royale vers la traduction de ces caractères si particuliers. Champollion publie ses travaux sous le titre « Des hiéroglyphes phonétiques », bien après les publications de Young, désormais à jamais son rival. En France, il devient un héros national, Son nom est définitivement associé à la pierre de Rosette. En 1828, Jean-François Champollion réalise un rêve. Aller fouler le sol de ce pays qui lui a donné sa raison de vivre. Il organise la plus grande expédition scientifique sur le Nil depuis Napoléon, 30 ans plus tôt. Il n'a de cesse de visiter temples, monuments, tout ce qui contient ces fameux hiéroglyphes qu'il peut désormais lire. Il faut savoir que pour connaître l'orientation de lecture d'un texte en écriture hiéroglyphique, il convient de se référer à l'orientation des animaux ou des figures humaines. S'ils sont tournés vers la gauche, le texte se lit de gauche à droite. En revanche, s'ils regardent vers la droite, il faut lire l'inscription de droite à gauche. Les textes se présentent soit en ligne horizontale, soit en colonne, et dans ce cas, la lecture commence du haut vers le bas. On a décodé l'écriture hiéroglyphique, les secrets de ces inscriptions vont enfin être révélés. L'histoire de cette grande civilisation peut désormais se raconter. Les noms, les visages des pharaons, les lieux où ils ont vécu, les dates importantes de leur existence sont identifiées. Au-delà de ça, les hiéroglyphes nous racontent aussi et surtout la vie quotidienne à cette époque. Désormais, on sait comment les Égyptiens vivaient. Les inscriptions et textes éclairent le passé, les cultures développées dans la vallée du Nil et tout ce que cette grande civilisation nous a transmis et qui perdure dans notre monde moderne. La pierre de Rosette a ramené à la vie l'histoire de l'Égypte antique et par là même